Bien, donc je vous invite à trouver le livre de l'Exode, chapitre 20. Chapitre 20 du livre de l'Exode. La colombe, j'ai la colombe ici. Mais... Exode 20, verset 1. Donc comme cela a été dit tout à l'heure, la nurserie est fermée pour cause de travaux, donc les seules personnes qui ont le droit de dormir pendant le message, ce sont les bébés. Les seules personnes qui ont le droit de pleurer pendant le message, ce sont les bébés. Sauf si vous avez envie de pleurer à cause de vos péchés, pleurez. Si vous avez envie de pleurer à cause de votre médiocrité chrétienne, pleurez. Et le Seigneur entendra vos pleurs et essuiera vos larmes. Exode chapitre 20, nous allons lire quelques versets, et c'est quelques versets qui font partie des 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Je précise les 10 commandements parce qu'il y a des 10 commandements. Il y a les 10 commandements des vacances, les 10 commandements du bon délinquant qui sont affichés dans certains commissariats, les 10 commandements du vendeur chez Renault, les 10 commandements du vendangeur, les 10 commandements pour avoir un dos en bonne santé, les 10 commandements de l'alcoolique qui veut s'en sortir, les 10 commandements du baigneur, et ainsi de suite. Il y a des 10 commandements, mais il y a les 10 commandements, dictés par Dieu, écrits par Dieu, donnés à Moïse. Et c'est ceux-là que nous allons lire. Ce matin, nous allons lire les 4 premiers. Dans 15 jours, nous allons lire les 6 derniers. Donc, je vous invite à trouver Exode, chapitre 20, et je lis à partir du premier verset. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, qui est le sabbat de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la mer, pardon, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Commandements 1, 2, 3 et 4. Quel commandement des 10 est le plus important? Alors, ça dépend à qui vous posez la question. Si vous posez la question à un ancien ou à un pasteur, il va dire, ah, c'est numéro 4, le jour du Seigneur, la présence au culte. Si vous posez la question à un papa ou à une maman de petits enfants, il ou elle va dire, ah, c'est numéro 5, tu honoreras ton père et ta mère. Si vous posez la question à un des réformateurs du 16e siècle, il aurait dit, ah, bah, c'est numéro 2, pas de statue, pas d'idole. Pas d'icône. Si vous posez la question au propriétaire d'un magasin de bonbons, Il dirait, ben, pour mes vendeurs, je leur dirais, c'est numéro 8, tu ne voleras pas les bonbons que tu dois vendre. Si vous posez question à un juge d'instruction, c'est peut-être le numéro 9, tu ne mentiras pas lorsque vous êtes au tribunal. Si vous posez question à un responsable du salon de l'agriculture, il va dire, ah, c'est numéro 10, tu ne convoiteras pas le bœuf de ton voisin. D'actualité. C'est une question importante, mais une question qui a été posée à Jésus. Et Jésus donne la réponse. Et je vous invite à regarder ce qui est la réponse de Jésus. Il donne la réponse à un homme religieux qui pose la question. Je vous laisse lire. Jésus répond à cet homme qui dit, quel est le premier? Et Jésus dit, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. En donnant la réponse à cette question, Jésus divise les 10 commandements en deux parties. Quand il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu », il résume les commandements 1, 2, 3 et 4 qui parlent de notre relation avec le Seigneur. Ensuite, quand il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Jésus résume les commandements 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire « Tu aimeras ton prochain ». Il s'agit de nos relations avec les autres. Nos relations verticales ou à notre relation, je commence à avoir du mal à parler, avec le Seigneur, aimer Dieu, nos relations avec, entre nous, aimer le voisin, aimer nos proches, aimer nos ennemis. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Les 10 commandements. Nous allons revenir à nos 4 commandements que nous allons considérer ce matin. Et on va regarder d'abord le premier. Versets 1, 2 et 3. La question qu'on se pose depuis quelques mois dans cette église est tout simplement, qui est Dieu pour toi? Et ici, dans ce premier commandement, nous avons quelques éléments de réponse. Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu? Eh bien, c'est un Dieu qui parle, parce qu'il parle ici. Dieu prononça ses paroles. Un Dieu qui parle, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui vous parle, un Dieu qui me parle. C'est aussi un Dieu qui est personnel. Dieu dit à son peuple, je suis l'Éternel, ton Dieu. Non pas un Dieu lointain, silencieux, mais un Dieu tout près, un Dieu qui parle, un Dieu qui est personnel et un Dieu qui agit. Il rappelle au peuple, mais je vous ai délivré de l'esclavage. Le film qui fait la une des journaux en ce moment, c'est 12 ans esclave. C'est, le titre est en anglais, mais quelqu'un qui pendant 12 ans était un esclave. Mais le peuple d'Israël était pendant des années dans l'esclavage. Et Dieu les a délivrés. Dieu est un Dieu qui agit. Un Dieu qui délivre. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Jacob parle du Dieu qui l'a délivré de toutes ses détresses. C'est formidable d'être auprès d'un chrétien ou une chrétienne âgée qui parle du Dieu qui l'a délivré de toutes ses détresses et de tous ses péchés. C'était déjà le cas de Jacob, le patriarche. Alors, le premier commandement est tout simplement un appel de la part du Seigneur qui dit, moi, je veux avoir la première place dans ta vie. Étant donné qui je suis, étant donné ce que j'ai fait, je veux et je mérite d'être numéro un dans ta vie, ou comme disent les Anglais, number one. Le Seigneur mérite et il demande d'avoir la première place dans notre vie. Ça, c'est le résumé du premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Mets-moi sur le trône de ton cœur, de ta vie. Il y a quelques années, une jeune femme de notre église dans le Pas-de-Calais voulait se faire baptiser. Et elle a dit, mais j'ai un problème. Ça fait 2 ans que je suis marié, et dans ma vie, la personne la plus importante, c'est mon mari. Ce n'est pas Dieu. Donc je ne peux pas me faire baptiser. On a discuté, on a réfléchi, elle a suivi son chemin avec le Seigneur, et le jour de son baptême, elle a dit devant toute l'église, vous savez, j'avais un problème. J'aimais mon mari plus que j'aimais le Seigneur. Elle a dit, je n'ai parlé avec mon mari, on a prié ensemble et aujourd'hui je peux vous dire, j'aime Jésus plus que j'aime mon mari. Jésus est numéro 1, mon mari est numéro 2. Son mari était sur l'estrade avec sa guitare, il était guitariste et tout le monde l'a regardé. Et il a fait signe de tête. Il a accepté que sa femme aime le Seigneur plus qu'elle. Nous pouvons remplacer le Seigneur par une personne, par nos possessions, par nos préoccupations, par nos passions, par nos péchés. Mais le Seigneur nous dit, enlève tout ça. Je mérite d'avoir la première place dans ta vie. Premier commandement. Deuxième commandement. Ça parle de quoi? Ça parle de ce qui peut représenter Dieu ou remplacer Dieu, c'est-à-dire des idoles, des statues, des objets, des talismans, des talismans ou des porte-bonheurs qui peuvent remplacer Dieu même dans la vie d'un chrétien. Et le Seigneur dit, pas d'idole devant ma face. Alors, une idole, c'est quelque chose qui représente ou qui remplace Dieu dans la vie d'un chrétien. Je dirais que la personne un peu référente dans notre église par rapport au sujet des idoles, c'est un certain Colin qui a parlé sur les idoles il y a quelques mois, et je vous encourage à écouter son message si c'était enregistré sur les idoles qui peuvent être dans la vie d'un chrétien. Mais le Seigneur est contre les idoles, les statues, les images. Il y a même des gens que je rencontre qui ont une photo de Jésus dans leur sac à main. Alors, j'essaie d'encourager les gens à réfléchir que, à l'époque de Jésus, prendre des photos était un peu difficile. Mais des gens disent, mais cette photo de Jésus me protège. Et quand j'ai du mal, je regarde et je prie. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a pas mal d'exemples d'idoles et d'idolâtrie. Il y a l'exemple du veau d'or. Exode 22, 32, que beaucoup de gens connaissent. Il est l'exemple de Élie et les prophètes Baal. Il est l'exemple dans le livre des Actes de Paul dans la ville d'Athènes. C'était le sujet du message de Yves Sifaï il y a un mois. Toutes ces idoles, 30 000 idoles dans la ville d'Athènes au premier siècle. Il y a aussi l'exemple dans le livre des Juges où Gédéon, Dieu lui dit, va casser les statues sur la place de la République au centre-ville. Alors Gédéon, vous connaissez l'histoire peut-être, il avait peur, il a trouvé 10 copains, et pendant la nuit, ils sont allés casser les statues. Alors je ne veux pas dévoiler des secrets, mais j'étais témoin d'une conversation il y a quelques semaines, plusieurs personnes dans cette église, qui sont présentes ce matin d'ailleurs, je ne vais pas les nommer, mais vous avez deviné de qui il s'agit. On a discuté de la Madone à Miribel. Et nous avons décidé, ce ne sera pas annoncé dans l'église, peut-être une nuit, un groupe de personnes qui, je ne vais pas les nommer, mais qui habitent à Miribel et à Thiel, dans notre église, avec moi, on risque d'aller casser cette statue une nuit. Donc si jamais ça arrive, nous sommes innocents, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui allons faire ça. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de statues. Et le Seigneur dit, pas de statues, pas d'idoles. Vous adorerez le Seigneur en esprit et en vérité. Les statues, les idoles, les talismans, tout cela engendre la superstition et la peur. Et le Seigneur veut chasser la peur de notre cœur. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament disent, en se moquant des idolâtres, vos statues, elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient rien. Elles ont des oreilles, elles n'entendent rien. Ah, nous avons un propre. Ah, voilà. Voilà des exemples bibliques d'idoles et d'idolâtres et de statues. Je crois que la pile est morte. Bon, on n'est pas esclave. Dieu m'a délivré de l'esclavage du PowerPoint. Allons-y, on va aller plus loin. Ah, ben voilà. Oh, j'adore. Alors, ça m'a fait penser à autre chose. Des statues, d'accord? On est d'accord. Bon, on n'a pas besoin de statues, on n'a pas besoin d'idoles. Mais le problème, c'est que parfois, les chrétiens disent, oh, j'adore. Alors, je ne parle pas que des jeunes. Oh, j'adore faire du ski. Oh, j'adore quand la batterie, la pile marche bien. Oh, j'adore un bon steak frites. Oh, j'adore Johnny Depp. Oh, j'adore. Bon, on en ajoute. Est-ce que les chrétiens devraient parler d'adorer dans ce sens-là? Alors, il y a quelques années, lors d'un camp pré-adon, dont j'étais directeur, on a essayé d'aider les jeunes, 35 jeunes de 13 à 15 ans, à réfléchir à leur vocabulaire. Déjà, les grossièretés, tout ça, étaient interdites, mais on a essayé d'aider les jeunes à réfléchir, mais est-ce qu'on devrait dire adorer à toutes les sauces? Et puis, on était content qu'après quelques jours, quand un jeune disait, oh, j'adore faire du bateau, un autre jeune disait, ah, on adore que Dieu seul. Donc, on était content que les jeunes eux-mêmes corrigent les jeunes qui disent, oh, j'adore. Si vous êtes tenté de dire, j'adore à toutes les sauces, bien, rappelez-vous que nous n'adorons que Dieu seul. Il mérite notre adoration, il mérite notre amour, il mérite notre fidélité parce que lui, il est toujours fidèle. Les idoles, l'adoration, c'est un problème aujourd'hui, c'est un problème il y a 20 siècles, parce que Jean, à la fin de sa première épître, le dernier verset, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Un danger pour tout chrétien à toute époque. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas obligés de nous mettre à genoux, mais nous sommes obligés de prier et d'adorer Dieu seul. C'est ce que Jésus a dit au diable lorsqu'il était tenté dans le désert. Tu n'adoreras Dieu seul et à lui seul, tu rendras un culte. Troisième commandement. Il est question des blasphèmes. Alors, est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent blasphémer? Est-ce que ça arrive à des chrétiens de blasphémer? Ben, il y a parfois des phrases qui sortent de la bouche des chrétiens, de croyants, ou d'athées, comme ça. Et ces phrases dites gratuitement peuvent tomber dans le domaine des blasphèmes. Prendre le nom de Dieu en vain. Mettre le nom de Dieu à toutes les sources. Nous devons faire attention à ce que nous disons quand nous parlons. Éphésiens 4, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous devons prier, Seigneur, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille sur la porte ou aux portes de mes lèvres. Les blasphèmes. Vous savez, il y a des lois dans certains pays qui interdisent et qui punissent le blasphème. Il y a une quarantaine d'années, il y avait quelques groupes rock non chrétiens en Angleterre qui blasphémaient. Et une députée convertie, évangélique, s'appelait Mary Whitehouse, Marie Maison-Blanche, elle a dit, mais il faut emmener ces gens en justice, parce qu'il y a des lois dans le pays qui interdisent le blasphème public en Grande-Bretagne. Alors, comme vous savez, il y a des lois, il y a l'application des lois, ce n'est pas toujours la même chose. Elle n'a pas eu gain de cause. Mais il y a 6 ans, aux Pays-Bas, il y a eu un week-end de heavy rock. Et voilà un article que je lis du journal qui dit « Les organisateurs du festival Heavy Metal à Rijen, aux Pays-Bas, ils ont obtenu leur autorisation de tenir ce congrès, ce festival. Mais à une condition, le maire a exigé ni jurons, ni blasphème. À la moindre incartade, je demanderai au procureur du royaume d'engager des poursuites, a prévenu monsieur le maire. » Incroyable, hein? Mais les blasphèmes, on en entend toute la journée parfois. Nous connaissons tous des non-chrétiens, tous qui ne croient pas en Dieu, mais tous qui prennent le nom de Dieu en vain. Parfois ça nous fait mal, mais nous devons, nous en tant que chrétiens, veiller sur notre vocabulaire et dans le domaine des blasphèmes, se demander, mais est-ce que parfois je ne blasphème pas quand je dis certaines choses, quand je dis certaines phrases. Numéro 4, ah voilà, des lèvres. Que le Seigneur mette une garde sur nos lèvres. Quatrième et dernier commandement pour ce matin, le jour du repos. Ah, le sabbat. Est-ce que vous aimez vous reposer? Est-ce que vous arrivez à vous reposer? Il y a des gens qui n'arrivent pas à se reposer, soit à cause des problèmes de santé ou des préoccupations de toutes sortes. Mais le repos, le Seigneur a dit un jour de repos. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Pourquoi? Ben, parce que c'est un besoin. On a besoin de se reposer. Tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé en sont convaincus. Mais par rapport à ce jour de repos, il y a parfois des bêtises qui ont été dites. Le peuple juif a décidé d'ajouter des traditions orales à la parole de Dieu. Je crois qu'ils sont arrivés à 632 règles par rapport à la loi de Dieu. Et certaines règles concernent le dimanche. Par exemple, si vous traversiez un champ de blé et vous aviez faim, si vous preniez un morceau de blé pour manger, vous pourrez être amené en justice parce que vous avez moissonné, si vous avez fait ça, le jour du sabbat. C'est ce qui est arrivé aux disciples dans les évangiles. Ils ont mangé du blé et les juifs étaient choqués. C'était le jour du sabbat. Ils ont moissonné le jour du sabbat. Si par exemple, un jour du sabbat, vous êtes en train de faire la sieste, il y a un moustique qui tourne autour de votre nez, qui vous empêche de faire la sieste, si vous prenez une tapette et vous tuez la moustique, un juif pieux peut vous emmener en justice parce que vous avez chassé le jour du sabbat. On n'a pas le droit de chasser le jour du sabbat. Mais il n'y a pas que les juifs qui inventent des traditions. J'étais élevé dans une famille évangélique en Écosse et dans les années 60, on avait des règles bien précises dans notre maison par rapport à ce que j'avais le droit de faire et ce que je n'avais pas le droit de faire le dimanche. Quand j'étais enfant et quand j'étais jeune. Mais ça continue dans certaines familles évangéliques, dans certains pays. Il y a 20 ans, une étudiante allemande était en étude en Angleterre, dans une famille chrétienne. Le dimanche matin, elle va au culte avec la famille. Le dimanche après-midi, elle descend de sa chambre, elle met son manteau, et la dame qui la reçoit dit « Ah, où est-ce que tu vas ?» Elle dit, ah, mais je suis libre maintenant, donc je vais aller au cinéma. Alors la chrétienne anglaise a dit, oh non, le dimanche, on ne va pas au cinéma en Angleterre si on est chrétien. Alors l'allemande, ah, d'accord, excusez-moi madame. Elle enlève son manteau, elle va dans sa chambre, elle lit la Bible. Une heure plus tard, elle descend pour aller faire un thé ou quelque chose, et elle voit la dame chrétienne anglaise en train de tricoter. Alors, elle arrive, elle voit la dame en train de tricoter, et l'allemande dit, « Oh, madame, en Allemagne, on n'a pas le droit de tricoter un dimanche, si on est chrétien. » Alors, sachez qu'il n'y a aucun verset biblique qui interdit d'aller au cinéma le dimanche. Enfin, je n'en ai pas trouvé, en tout cas. Et il n'y a aucun verset biblique qui interdit de tricoter un dimanche. Ce sont des... Est-ce que ce sont des bêtises ou juste des traditions humaines qui n'ont pas de valeur et on doit essayer de se respecter avec les différentes traditions. Mais le jour du Seigneur, toujours est-il, est un moment de repos et un moment où on doit se rappeler. On doit se rappeler ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce qu'on fait un dimanche matin quand on prend la scène? En souvenir de moi. On prend la scène pour se rappeler, mais Jésus est mort pour mes péchés. Il est ressuscité le troisième jour pour mes péchés. Dans certaines églises, il y a des tables express avec de gravé dans le bois en souvenir de moi. On se souvient du Seigneur. C'est pour se rappeler. On doit se rappeler la vie, le sacrifice du Seigneur. On doit se souvenir des bénédictions quotidiennes qui viennent de la part du Seigneur. Mais on doit aussi se rappeler que j'étais autrefois esclave, je suis aujourd'hui libre. J'étais autrefois aveugle, je suis aujourd'hui quelqu'un qui voit. Et tout ça, c'est grâce au Seigneur. Et ça fait du bien de tout arrêter, de se réunir, de se rappeler. Seigneur, merci, car tu es mort pour moi. Un moment de repos, un moment de rappel, et aussi un moment de montrer notre reconnaissance. Juste un petit mot, M-E-R-C-I, juste un petit mot pour dire merci à Jésus mon roi, qui est là dans tous mes combats. Je sais que tu es là, merci à toi. Un moment de reconnaissance, à haute voix ou dans notre cœur. Faisons monter notre reconnaissance au Seigneur, le jour où on est ensemble, et même tous les jours de la semaine. Numéro 4, le jour du sabbat. Depuis le premier siècle, les chrétiens se réunissent le dimanche. Le jour du sabbat dans l'Ancien Testament était le sabbat, le septième jour de la semaine, le samedi. Je conclue. Premier commandement. Dieu dit, je veux avoir la première place. Je veux être sur le trône de votre vie. C'est bien ça, merci Colin. Deuxième commandement, nous devons prier, adorer en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'objets pour nous aider à adorer le Seigneur. Troisièmement, attention aux blasphèmes qui peuvent sortir de la bouche même d'un chrétien. Quatrièmement, le jour du Seigneur, un moment pour se rappeler, un moment pour se reposer, un moment pour remercier le Seigneur. Et un moment où on peut dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, merci pour ta loi, pour tes lois. Merci aussi pour tes promesses. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider à marcher selon ce que tu nous demandes. Nous savons que tu nous donneras la force et l'envie de te suivre. Mais aide-nous, Seigneur, à être fidèles dans les petites choses et dans les grandes choses. Et nous voulons te remercier de nouveau ensemble que tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui agit et tu nous as délivrés de l'esclavage. Nous t'en remercions. Et nous te prions de nous aider à vivre dans l'obéissance en homme et en femme libre. Libre pour te servir, libre pour t'adorer, libre pour témoigner. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.